19h, vous êtes sur Europe 1.
Et alors que Pfizer et BioNTech, les laboratoires, déposent aujourd'hui une demande d'autorisation pour leur vaccin contre le Covid, les pays commencent à mettre en place les dispositifs nécessaires à une campagne de vaccination massive.
Certains sont plus organisés que d'autres. L'Allemagne est prête à vacciner 20 000 personnes par jour. En France, on commence tout juste à réfléchir à la stratégie.
La disparition aujourd'hui de l'ancien résistant Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération, il fut l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Un hommage national lui sera rendu.
Le tueur en série Michel Fourniret, hospitalisé en réanimation, un état de santé qui inquiète dans la perspective d'obtenir enfin la vérité dans l'affaire Estelle Mouzin.
L'arrivée de la 5G à Nice, première ville à se lancer en France. Et puis la visite du secrétaire d'État américain dans une colonie israélienne. Cadeau de départ de Trump à Benjamin Netanyahou, nous dira Didier François.
La tendance météo avec Anissa, une grande fraîcheur et beaucoup de soleil demain au programme.
C'est le programme de ce samedi, effectivement, Julien. Après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'installe presque partout. Les températures sont en baisse, surtout le matin avec de nombreuses températures négatives. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Du côté des vaccins contre le Covid, les choses donc s'accélèrent, Isabelle.
Et oui, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont officiellement déposé aujourd'hui une demande d'autorisation pour leur vaccin. Ils pourraient obtenir le feu vert d'ici quelques semaines, ce qui veut dire que les premières vaccinations pourraient alors débuter avant la fin de l'année.
Il est donc urgent de mettre en place un plan de vaccination, de s'organiser. Certains ont anticipé, plus que d'autres. On verra dans un instant que la France est un peu à la traîne.
Oui, nos voisins allemands, eux, sont déjà prêts. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Hélène, les centres de vaccination sont même déjà installés.
Oui, ici à Berlin, il y en a 6. Alors au parc des expositions, au vélodrome, dans une salle de concert par exemple, avec à chaque fois 15 cabines de vaccination. Les seringues et les aiguilles ont été commandées, certaines déjà livrées d'ailleurs. Tout est prêt pour pratiquer une injection toutes les 2 minutes à partir de la mi-décembre, si le vaccin est prêt. C'est ça l'objectif, un vaccin toutes les 2 minutes, car Berlin a maintenant un taux d'incidence qui dépasse celui de Paris. Rien que dans la capitale, il y a 400 000 personnes à risque, et en Allemagne en général, c'est 40% de la population, parce qu'il y a beaucoup de seniors ici. Et comme les Allemands sont globalement plutôt mauvais quand il s'agit d'improviser, eh bien ils ont préféré anticiper et ils ont arrêté leur stratégie de vaccination dès le début de ce mois de novembre. L'Académie des sciences, le Comité national d'éthique et une commission parlementaire ont planché ensemble sur la question. Tout est réglé au millimètre pour écarter toute polémique. Et d'ailleurs, 93% des Allemands disent qu'ils sont d'accord avec ce plan de vaccination qui ciblera jusqu'au printemps prochain uniquement les personnes à risque. Les soignants, les forces de l'ordre et les enseignants. Le seul détail qui n'est pas public pour l'instant, ce sont les lieux de stockage du vaccin, 60 hangars répartis sur tout le territoire allemand, qui, une fois connus, seront protégés par l'armée.
Merci beaucoup Hélène Kohl, en direct de Berlin. Alors ça, c'est donc l'Allemagne, très organisée, vous nous le disiez Hélène. Et en France, eh bien, est-ce qu'on est prêts, nous aussi? C'est moins évident. On en est simplement, pour l'instant, à évoquer la nomination d'un futur monsieur ou madame vaccin.
Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins généralistes de France, regrette qu'encore une fois, notre pays soit à la traîne.
Depuis le début de cette pandémie, la France ne s'est pas illustrée par une préparation à toute épreuve. On a manqué de masques en mars, on a manqué de tests au mois de septembre. On est en train de manquer de vaccins contre la grippe au mois de novembre. Donc, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. J'espère tout simplement qu'on ne s'appuiera pas sur l'administration comme on l'a fait en 2009 avec Roselyne Bachelot. Rappelons qu'en 2008, les médecins généralistes vaccinaient 12 millions de personnes et que quand on a organisé les vaccinodromes de 2009, on a vacciné simplement 6 millions de personnes. Moitié moins. Il faut agir et vite, définir une stratégie, faire en sorte que les pharmaciens soient approvisionnés, que les médecins généralistes soient également approvisionnés et que les infirmières libérales puissent être en capacité de vacciner.
Jean-Paul Hamon, oui, le président de la Fédération des médecins généralistes avec Victor Delande. J'écoutais attentivement ce qu'il était en train de nous dire.
Et c'était intéressant. Nous sommes sur la bonne voie pour rouvrir les petits commerces autour du 1er décembre. C'est ce qu'affirme le Premier ministre alors que les discussions sur le sujet se sont poursuivies aujourd'hui encore à Bercy.
Réouverture qui devrait finalement intervenir le 28 novembre, mais avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire très strict.
8 mètres carrés par client, du gel hydroalcoolique à l'entrée, le marquage au sol ou encore l'installation de plexiglas. On intensifie en réalité ce qui se fait déjà actuellement.
Et évidemment, on sera fixé mardi prochain à 20h après la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron que l'on suivra en direct ensemble sur Europe 1. Le chef de l'État qui ce soir rend hommage à Daniel Cordier, dont on a appris aujourd'hui la disparition à l'âge de 100 ans. Le résistant, le secrétaire de Jean Moulin, s'en est allé, écrit le président. Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France, dit le président Macron.
Nous leur devons notre liberté et notre honneur. Emmanuel Macron qui annonce qu'un hommage national sera rendu à Daniel Cordier. Donc, il ne reste plus aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale qu'un seul compagnon de la libération, Hubert Germain.
Daniel Cordier, une vie incroyablement riche, marquée par la guerre, bien sûr. Il y a 7 ans, sur Europe 1, il était revenu justement sur l'un des épisodes marquants pour lui, l'arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943.
Je n'avais qu'une idée, je voulais venir à Lyon et puis monter une équipe et puis le libérer. Il était à Montluc, là, attaquer la prison, enfin vous savez, ce sont des idées, j'allais dire d'enfant, de jeune homme. Mais là, je voulais à tout prix, la liberté pour Moulin. Le message de Jean Moulin, c'est la liberté. C'est aussi mon combat. C'était toute ma vie, c'est la liberté. C'était le combat de Jean Moulin.
Daniel Cordier, le 27 mai 2013 sur Europe 1, il était au micro de Jean-Luc Boujon.
Évidemment, les hommages ce soir sont nombreux depuis l'annonce de sa disparition. Tous saluent son engagement précoce,
comme
notamment.
Vladimir Trouplin, il est conservateur du musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides à Paris.
Il a fait preuve de cette capacité à placer au-dessus de son propre avenir quelque chose de supérieur. Et ce quelque chose de supérieur, c'était la défense de la patrie, la défense de la nation. Et c'est un militant d'extrême droite. Quand il s'engage en 1940, il a évolué. Il a évolué en se confrontant à d'autres peuples, aux Britanniques, en voyant ce qu'était aussi la politique de collaboration de Vichy. Il a totalement changé. Ce garçon qui avait une admiration a priori totale pour Pétain n'a plus voulu en entendre parler. Le jour où il a entendu Pétain dire « je vais demander l'armistice aux Allemands » le 17 juin 1940, il a rompu immédiatement. Et il est parti à l'aventure, mais vraiment avec cette idée de servir le pays.
Le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération à Paris, Vladimir Trouplin, avec Hélène Terzian.
Mais vous savez que le dernier compagnon de la Libération doit être inhumé normalement au Mont-Valérien. Ce devrait donc être Hubert Germain, puisque c'est à ce jour, avec la disparition ce soir de ce résistant Daniel Cordier. Ce sera le dernier compagnon de la Libération. À Vesoul, le procès de Jonathan Daval avec cette confrontation très attendue entre les parents d'Alexia et leur gendre.
La mère de la jeune femme a tenté en vain d'arracher des explications sur son geste. Verdict attendu demain.
Michel Fournier est hospitalisé dans un service de réanimation après un malaise dans sa cellule.
Le tueur en série dont la justice tente de faire ressurgir les souvenirs sur l'endroit où il aurait enterré le corps d'Estelle Mouzin. Son état de santé inquiète, en particulier dans la perspective d'obtenir la vérité justement dans cette affaire, Chloé Triomphe.
Oui, et les plus inquiets, ce sont sans doute les avocats du père d'Estelle Mouzin lorsqu'ils ont appris la nouvelle ce matin. Écoutez le sentiment de maître Didier Seban.
Je dirais que c'est une colère, surtout parce qu'il était déjà très affaibli lors de ses dernières auditions ou déplacements dans les Ardennes. Il était difficile d'obtenir des indications, des précisions de sa part. Donc, effectivement, on se dit pourquoi tout ce temps perdu. Sa mémoire est dans une forme de brume aujourd'hui difficile à transpercer. Maintenant, à la fois les indications qu'il a pu donner au juge et puis les vérifications qui ont été faites depuis corroborent l'idée que des fouilles peuvent être utiles et qu'on peut peut-être avoir l'espoir de retrouver le corps d'Estelle.
Car des nouvelles fouilles, il y en a effectivement prévues début décembre aux abords de l'une des anciennes propriétés de Michel Fourniret, car lors de sa dernière sortie, justement pour des fouilles sur place encadrées par la juge d'instruction et par les gendarmes, il avait en toute fin de journée donné de nouvelles indications prometteuses. En tout cas, la justice veut tout faire pour tenter d'aller au bout de cette affaire.
Chloé Triomphe du service police et justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite de votre journal à 19h10 avec Isabelle Millet. Si vous habitez du côté de Nice, que vous possédez un smartphone compatible et un forfait SFR, ça fait beaucoup de si, vous verrez peut-être apparaître un petit logo 5G en haut à droite de votre appareil.
Oui, car Nice devient la première ville française à l'heure de la 5G. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant sur place.
Et en tout, ce sont 140 antennes relais 5G qui ont été installées, ce qui permet de couvrir 50% de la ville. Mais pour accéder à cette technologie, il faut être équipé d'un smartphone compatible et surtout attendre mardi le lancement de l'abonnement chez SFR. Convaincu de l'intérêt de la 5G pour le développement de Nice, son maire Christian Estrosi ambitionne de faire de sa ville un modèle dans ce domaine.
Ça va permettre un développement énorme des usages familiaux, du commerce en matière de transition écologique, de transport, de santé, de sécurité. Ne serait-ce que pour poser une caméra en 5 minutes, si ici ou là il y a une alerte, on n'aura pas besoin d'être relié à la fibre optique. Avec la 5G, elle sera immédiatement opérationnelle.
Nice veut aussi attirer sur son territoire de nouvelles entreprises françaises et étrangères, et la 5G est un argument, mais vous allez l'entendre, tout le monde n'a pas le même avis. Baptiste et Charlotte sont deux collègues de travail.
Potentiellement, c'est une bonne nouvelle. Ça va pouvoir dynamiser des entreprises et l'implantation de nouveaux secteurs économiques.
Le progrès, c'est ce qu'il faut pour notre société. Après, à quel prix? Pour tout ce qui est santé, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment très très bon.
Et d'ici la fin de l'année, 70% de la ville de Nice devrait être couverte par la 5G.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
Dans l'actualité également, une tournée d'adieu qui ne passe pas inaperçue, celle du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.
Et on en parle ce soir avec, bien sûr, notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un secrétaire d'État américain qui visite une colonie israélienne considérée comme illégale par le monde entier, c'est du jamais vu.
Oui, c'est d'ailleurs difficile pour Donald Trump de faire un plus beau cadeau de départ à Benjamin Netanyahou que cette double visite de son secrétaire d'État, puisque Mike Pompeo s'est effectivement rendu d'abord dans une colonie de Cisjordanie, en territoire palestinien occupé, mais également il a visité le plateau du Golan, province syrienne hautement stratégique, annexée par Israël après la guerre des Six Jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de territoire occupé, qui dans les résolutions des Nations Unies désigne ces espaces perdus par les forces arabes coalisées lors de leur défaite de 1967, et dans lesquels Israël maintient une présence militaire, installe ou laisse s'installer des implantations juives de peuplement, qui sont d'ailleurs au cœur du bras de fer diplomatico-politique du conflit israélo-arabe. Les Palestiniens dénonçant une colonisation de leur terre qui finira par leur ôter tout espoir de créer un jour un État viable. Et puis les Israéliens, particulièrement le Premier ministre Benjamin Netanyahou, plaident, eux, pour une évolution du droit international qui reconnaisse un statut légal à ces implantations. Et c'est exactement ce que vient de leur offrir Donald Trump, même si c'est de façon purement symbolique.
Les positions semblent pourtant évoluer, y compris dans le monde arabe.
Alors oui, même chez les Palestiniens, qui d'abord, sont prêts maintenant à des échanges de territoire, et puis surtout, il est quand même assez frappant de noter qu'au moment même où Mike Pompeo visitait ces colonies, les négociateurs palestiniens reprenaient les pourparlers sécuritaires avec les Israéliens, alors que ces discussions avaient justement été suspendues en juin dernier pour protester contre les menaces d'annexion de la vallée du Jourdain par Benjamin Netanyahou. Alors, il faut dire que le soutien indéfectible de Donald Trump à Israël a profondément changé les rapports de force dans la région, avec des signatures d'accords de paix directs entre plusieurs pays arabes et Israël, ce qui laisse à l'autorité palestinienne une marge de manœuvre extrêmement réduite.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Et merci à vous Isabelle, on vous retrouve lundi. Bon week-end. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec Anissa qui nous a rejoint en studio, il va faire frais demain matin.
Oui, froid même, moins 4 degrés à Rodez, moins 4 degrés aussi dans le Massif Central, moins 3 en Lorraine, moins 2 degrés dans le centre, moins 1 degré à Clermont-Ferrand et Manosque. Nous aurons jusqu'à 11 degrés demain matin et c'est à Cherbourg qu'il fera le plus doux sous les nuages. 7 à 16 degrés demain après-midi, 7 à Strasbourg, 12 à Paris, 16 à Nice, vous l'avez compris, ça baisse du côté du thermomètre. Dans le ciel, en revanche, c'est plutôt agréable. Le soleil brille sur quasiment toute la France, sauf
ça, c'est pas mal,
en Normandie. Et attention, en Corse, nous avons toujours un petit peu de vent demain sur les caps.
Bien, prudence. Merci Anissa. Europe 1.